Aujourd'hui, on va parler de Camus et de l'absurde. Après mon épisode sur Sartre, vous avez été encore plus nombreux que par le passé à me demander de parler de son meilleur ennemi, j'ai nommé Albert Camus. Pourquoi meilleur ennemi ? Parce qu'au départ, Sartre et Camus sont amis. Ils se rencontrent pour la première fois en 1943 et partagent un certain nombre d'idées, notamment sur le plan politique. Ce sont deux hommes de gauche qui ont en commun un certain attachement à la justice sociale, mais Sartre et Camus n'incarnent pas la même gauche. Camus se méfie des idéologies, en général, de tout ce qui détourne de l'humain, et notamment, il exprime son opposition au totalitarisme soviétique et au goulag. Pour Camus, on doit dénoncer les goulags comme on a dénoncé les camps de concentration. Pour Sartre, au contraire, on doit maintenir un soutien à l'URSS pour des raisons d'alliance et de fraternité politique. Il se trouve que Sartre était communiste et qu'il avait encore des gages à donner au Parti communiste qui le considérait comme un penseur trop pessimiste. L'amitié entre les deux hommes sera consommée suite à la publication par Camus de L'Homme révolté en 1951, dans lequel Camus critique violemment l'existentialisme et Sartre lui répondra tout aussi violemment dans un article des Temps modernes en 1952. Mais si j'évoque ce lien d'amitié et la rupture de ce lien d'amitié entre Camus et Sartre, c'est surtout pour illustrer leur divergence philosophique, une divergence qu'on a parfois tendance à sous-estimer. D'ailleurs, il n'est pas rare qu'on range Camus dans les penseurs de l'existentialisme ou qu'on range Sartre dans les penseurs de l'absurde. En réalité, s'il y a un penseur de l'absurde en France au XXe siècle, c'est Camus. Et même si on trouvera des points d'accord entre leurs philosophies respectives, Sartre et Camus ne partagent pas la même vision du monde ni de l'homme. Camus, penseur de l'absurde, qui nous a livré sa conception sur ce sujet à travers trois œuvres, et on notera d'ailleurs que ces œuvres appartiennent toutes à des genres littéraires différents. Le mythe de Sisyphe, un essai, L'étranger, un roman, et Caligula, une pièce de théâtre. Et je pense que ce choix de Camus d'avoir mis en forme sa pensée sur l'absurde à travers non seulement le prisme de la philosophie, mais aussi celui de la littérature, est un choix qui est en lui-même porteur de sens sur la manière dont on peut rendre compte de l'absurde, j'oserais dire, sous toutes ses facettes. Voilà pourquoi, dans cet épisode, je ne séparerai pas les écrits philosophiques de Camus de son œuvre littéraire sur la question de l'absurde. Et je pense même qu'en procédant ainsi, vous saisirez mieux toute la profondeur, mais aussi le caractère extrêmement concret de la pensée de Camus sur l'absurde. En un mot, le but de cet épisode, ce sera de vous montrer, du moins je l'espère, à quel point la philosophie de l'absurde de Camus peut entrer en résonance avec les questionnements existentiels de ce que Orwell appelait l'homme ordinaire. Alors, comme point de départ de notre réflexion d'aujourd'hui, je partirai de la toute première phrase du mythe de Sisyphe qui résume parfaitement le problème, et qui dit « Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. » Alors pourquoi je prétends que cette phrase résume tout le problème de l'absurde ? Eh bien, c'est parce qu'elle exprime parfaitement la radicalité, la brutalité, au sens d'une pierre brute, et le caractère extrêmement concret de ce que Camus considère être l'absurdité de l'existence. Parce que s'il est vrai que l'existence est absurde, alors surgit aussitôt la question corollaire : à quoi bon vivre ? Si le monde est absurde, si la condition humaine est absurde, alors l'option du suicide comme solution pratique à ce problème ne peut être contournée. À moins de considérer que nos convictions philosophiques ne soient que de la décoration intérieure. Et si le thème de l'absurde soulève d'autant plus cette question des conséquences pratiques de notre philosophie, c'est parce que l'absurde touche à la vérité première de notre existence. L'absurde, ce n'est pas juste un système de pensée. L'absurde, ça touche à la racine de notre condition. Ça touche aux profondeurs de notre être. Et faire de l'absurde une simple abstraction dont on pourrait parler, sans que cela ne mette littéralement nos vies en jeu, en faire une simple posture intellectuelle ou esthétique pour se donner l'air plus intelligent, ça ne marche pas. L'absurde, c'est sérieux. L'absurde, c'est une expérience dont on ne revient pas inchangé. Autrement dit, si Camus pose d'emblée la question du suicide, avant même d'avoir défini l'absurde, avant même d'avoir expliqué en quoi l'existence était absurde, c'est parce qu'il veut montrer qu'on ne peut pas comprendre ce qu'est l'absurde si on n'en a pas un tant soit peu éprouvé la puissance. On ne peut pas comprendre l'intensité de cette question si on n'a pas fait l'expérience dans sa chair de ce que signifierait, pour nous, le fait de savoir que l'existence est absurde. En résumé, se poser la question de l'absurde, c'est se poser la question de la valeur de sa vie. La valeur de la vie, d'où vient-elle? Qu'est-ce qui fait qu'on accorde de la valeur à notre existence? On avait vu dans l'épisode sur la mort chez Épicure que la mort est souvent perçue comme un événement dramatique, ou en tout cas comme un événement malheureux et douloureux. La question qui se pose, c'est pourquoi? Pourquoi témoignons-nous autant d'importance à la vie? À cette question, on peut répondre de deux manières. La première réponse est d'ordre culturel. Nous accordons une valeur à la vie parce que nos religions, parce que nos systèmes moraux puis juridiques font de la vie, et en particulier de la vie humaine, quelque chose de sacré. Le caractère sacré de la vie, c'est ce qui fait que nous pouvons cohabiter. C'est ce qui fait que celui qui va enfreindre l'interdit du meurtre, l'un des 10 commandements, « tu ne tueras point », va être mis au ban de la société. Qu'on se situe du côté de la religion ou du côté d'une morale laïque, la vie humaine est sacrée. La vie humaine est un absolu. Et même si cet absolu est de l'ordre de l'inexplicable ou de l'irrationnel, le fait est que nous partageons, pour la grande majorité, cette conception d'une vie humaine sacrée. Mais il y a une deuxième réponse au fait de savoir pourquoi nous accordons autant de valeur à la vie. Une réponse bêtement biologique, mais les réponses les plus bêtes sont souvent les moins fausses, c'est le fait que tout être vivant est programmé pour tendre à sa survie. En d'autres termes, nous considérons la vie comme sacrée parce que nous y sommes viscéralement attachés. Et d'ailleurs, Camus a une phrase pour exprimer cet attachement à la vie. Il écrit « Le corps recule devant l'anéantissement ». C'est finalement la meilleure image que l'on puisse donner de notre instinct de survie. Le recul devant l'anéantissement. Et ce qu'on appelle l'instinct de conservation, qu'on observe aussi bien chez l'homme que chez les animaux, c'est cette concertation du corps humain vers un but ultime qui est la perpétuation. La perpétuation de soi, ce que Schopenhauer appelait le vouloir vivre, et qui porte tout corps vivant à vouloir survivre en permanence à soi. Et donc finalement, on rejoint un peu l'idée de Nietzsche, qui disait que l'homme considère comme sacré ce qui sert ses intérêts vitaux. Car s'il est vrai que nous sommes programmés pour la survie, s'il est vrai que la vie court indéfiniment après sa propre perpétuation, eh bien il n'est pas illogique que l'homme ait fabriqué des systèmes moraux qui convergent avec ce vouloir vivre. Et quand Spinoza dit qu'on juge une chose bonne parce qu'on la désire et non pas l'inverse, il dit exactement la même chose. Il dit que nos concepts sont déterminés par nos affects et que nos valeurs ne sont que la traduction culturelle de nos intérêts biologiques. En somme, la valeur de la vie, c'est le coup de tampon métaphysique apposé sur notre attachement viscéral et irrationnel à la vie. Alors ici, on touche à la première manifestation de l'absurde dans notre existence. L'impossibilité d'établir rationnellement la valeur de la vie. Parce qu'on aura beau dire que la vie a une valeur parce que nous sommes programmés pour y être attachés, ça ne résout pas le problème. Pourquoi y sommes-nous attachés? On ne résout pas un problème en disant « c'est comme ça ». On ne résout pas le problème de la valeur de la vie en disant « on tient à la vie, donc la vie a une valeur ». La raison a besoin de comprendre. pas de se soumettre à l'incompréhensible. La raison veut des réponses. Et c'est pourquoi Camus considère que les différentes réponses apportées dans l'histoire à la question du sens de la vie ne sont selon lui que des dérobades. Des dérobades parce que ces réponses sautent par-dessus la raison et ce faisant, elles n'ont plus de compte à lui rendre. La foi est un saut par-dessus la raison parce que la foi vient donner la réponse que la raison ne peut pas donner, mais sans que la raison ne puisse la vérifier. Et ça pour Camus, c'est trop facile. C'est trop facile parce que c'est éviter la confrontation. Éviter la confrontation à l'absurdité radicale. Freud dirait que c'est justement pour éviter la confrontation à cette absurdité que les religions sont nécessaires. Parce qu'elles permettent à l'homme de fabriquer des réponses à ses questions les plus fondamentales. Dans L'avenir d'une illusion, Freud explique bien que les religions ont été créées par les hommes parce que c'était le moyen pour eux d'obtenir des réponses à des énigmes fondamentales. L'énigme de la création de l'univers, l'énigme de la vie après la mort, l'énigme de la justice dans l'au-delà. En créant Dieu, les hommes ont créé un moyen de se rassurer, ils ont créé un moyen de supporter la vie sur Terre, et leur foi permet ainsi de combattre leur sentiment d'absurdité. D'une certaine manière, si la foi n'existait pas, l'humanité sombrerait dans la folie. Parce que la foi, ça donne du sens. Si Pascal a fait le pari de l'existence de Dieu, c'est bien parce qu'il avait conscience qu'aux yeux de la raison, la foi ne pouvait être qu'un pari. Et ce pari de l'existence de Dieu, l'homme absurde ne le fait pas. Car l'homme absurde ne cherche pas d'échappatoire. L'homme absurde ne recherche pas une métaphysique de la consolation. Il ne cherche pas à apaiser son angoisse. Il cherche la vérité fondamentale. Il cherche la lucidité. Et c'est parce que la vérité est une question beaucoup trop sérieuse qu'on ne peut pas la déléguer à des fantasmes ou à des scénarios hypothétiques. L'homme absurde, c'est celui qui ne veut pas comprendre par procuration. La question du sens de l'existence ne serait pas un problème pour l'homme si on pouvait retirer deux données de l'équation. La première donnée, c'est que l'homme est un être conscient. La deuxième donnée, c'est que l'homme est un être mortel. Conscience et mortalité sont les deux ingrédients de base de la conception absurde de l'existence humaine. Et c'est ce sur quoi nous allons maintenant nous pencher. L'homme est un être conscient. Autrement dit, l'homme est un être capable de percevoir le monde qui l'entoure, capable de se percevoir comme existant dans le monde, est capable de s'interroger sur le sens de son existence dans le monde. Dans le mythe de Sisyphe, Camus écrit « L'absurde naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. » L'appel humain, c'est l'appel lancé au monde par l'homme pour tenter d'obtenir des réponses. Des réponses sur le sens de son existence. Et ce besoin d'obtenir des réponses, ce besoin d'anéantir l'ignorance et de transformer l'inconnu en connu, c'est le résultat direct de notre conscience. Sans conscience, pas de questionnement, pas de réflexion sur le sens de l'être. Et donc, pas de remise en cause de la valeur de notre existence. Si les animaux sauvages sont sans doute bien moins malheureux que nous, c'est parce que leur rapport au monde n'est pas altéré, n'est pas télescopé par la conscience de leur existence. Les animaux n'ont pas conscience de suivre un chemin qui aboutit à la mort. La mort n'est pas pour eux un objet de conscience. Elle n'est donc pas un objet d'angoisse. Et lorsque l'animal se trouve dans une situation où sa vie est mise en danger, un danger immédiat, l'animal n'a pas le temps d'éprouver l'angoisse existentielle. Sa peur est une réaction mécanique, automatique, dont le but est de le faire réagir pour éviter la mort. Dans une situation de danger imminent, de stress intense, c'est l'adrénaline qui nous domine, pas l'angoisse. L'angoisse est le fruit de la conscience. Donc d'une certaine manière, la conscience, c'est le début des problèmes. La conscience, c'est ce qui fait de l'homme quelqu'un qui ne se contente pas d'être, mais qui veut savoir pourquoi il est. Le fait que l'homme soit un être conscient rend son existence beaucoup plus précaire et beaucoup plus inconfortable que s'il était dépourvu de cette conscience. La conscience nous fait nous poser des questions qui n'entreraient même pas en ligne de compte si nous étions des animaux. Et la phrase « heureux les simples d'esprit » illustre parfaitement cette facilité d'être qu'ont les personnes qui ne se posent pas de questions inutiles sur le sens de leur existence. Facilité d'être qu'ont les personnes qui ne se posent pas de questions contre difficulté d'être, voire douleur d'être, des personnes qui veulent des réponses. La conscience humaine, c'est l'origine de notre angoisse face à l'absence de réponse. Mais l'appel humain, c'est en même temps l'appel à l'aide, l'appel au secours, l'appel au secours de celui qui se sait condamné à mort, mais qui ignore de quoi il est accusé. Parce qu'autant l'homme vit dans l'ignorance des raisons de son existence, autant la mort ajoute à cette existence une absurdité qui dépasse toutes les ignorances. Et pourquoi la mort rend-elle l'existence absurde? Parce que la mort, c'est ce qui rend tout ce que nous faisons inutile. Parce que la mort détruit tout. Parce que la mort fait de notre existence le champ de l'impermanence. Et parce que l'homme est spirituellement câblé pour rechercher la permanence. À quoi bon exister si c'est pour que le temps nous efface? La raison s'accorde mal de l'impermanence. La raison recherche l'unité. Elle recherche la fixité. Elle recherche l'éternité. Et ce besoin de permanence, que William James appelait notre tempérament idéaliste, est directement contrarié par l'inéluctabilité de la mort. L'absurde, c'est ce qui naît de notre espoir contrarié d'éternité. Regardez autour de vous et observez ces gens qui vivent comme s'ils n'allaient pas mourir. Nous vivons comme si nous n'allions pas mourir. Nous vivons comme si aujourd'hui allait se répéter indéfiniment, comme si demain ne portait pas le poids d'hier. Nous vivons comme si nous n'allions pas mourir, parce que l'idée de la mort est un coup de canif dans notre contrat métaphysique idéal. Nous vivons comme si nous n'allions pas mourir, nous oublions que nous allons mourir, parce que cette idée nous condamne à l'avance. Elle nous condamne à voir l'absurde en face. Et le divertissement pascalien, le besoin de détourner les yeux de notre condition mortelle, c'est une des solutions de survie pour l'être humain. On se donne des choses à faire, des tâches à accomplir. On s'occupe comme on peut tant que ça nous permet de détourner le regard de l'absurdité fondamentale de notre existence. Car quand on affronte l'absurde, quand on fait un pas de côté pour constater l'inutilité radicale et l'absence de sens de tout ce que nous faisons, le risque est grand de sombrer dans la folie. L'absence de sens, ce n'est pas seulement un problème pour l'être humain, un problème qu'il serait capable de gérer, comme on dit. L'absence de sens, c'est l'amputation d'une de nos aspirations essentielles. Et c'est pourquoi je disais que tous les problèmes disparaîtraient si nous n'avions pas de conscience. Sans conscience, pas de questionnement sur le sens. Sans conscience, pas d'absurdité. L'absurde est un problème humain. C'est le problème humain. Quand Schopenhauer prend conscience que le principe de l'existence est absurde, quand il réalise que, quels que soient les efforts déployés par notre raison, nous sommes fondamentalement incapables d'accéder au sens, il préconise à l'humanité de cesser de se reproduire. Il préconise à l'humanité de se suicider collectivement. Cette préconisation est l'expression d'un désespoir. Le désespoir de celui qui avait placé dans le monde des attentes auxquelles le monde n'a pas daigné répondre. Depuis l'aube de l'humanité, les hommes ont projeté sur les phénomènes incompréhensibles qui se présentaient à eux des explications. des explications permettant de colmater l'absurdité partout où elle apparaissait. Autrefois, c'était les religions qui avaient en charge la signification des phénomènes. Aujourd'hui, c'est la science. Mais dans tous les cas, ce qui est à l'œuvre, c'est un besoin de sens. Et ce besoin de sens va au-delà de la simple recherche de causes aux phénomènes observables. Le besoin de sens, c'est plus qu'une liste de lois physiques et de mécanismes de transformation biologique. Le besoin de sens, c'est un appel au ciel. Le besoin de sens, ce n'est pas de savoir le comment. Le besoin de sens, c'est de savoir le pourquoi. Et entendez bien que le pourquoi peut également se lire comme le pourquoi. En d'autres termes, trouver le pourquoi, c'est trouver la finalité. C'est trouver la destination. C'est ça le besoin de sens. Trouver la finalité qui donne une raison d'être. Savoir que nous sommes le résultat d'une combinaison de cellules dont a émergé accidentellement une propriété qu'on appelle la conscience, ça ne satisfait pas notre besoin de sens. Voilà pourquoi on peut dire que l'absurde, ce n'est pas le constat d'une absence de cause. C'est le constat d'une absence de raison d'être. Et ça, c'est très différent. Une raison d'être, c'est plus qu'une cause. Une cause, c'est accidentel. Une cause, c'est impersonnel. Une cause ne donne pas de valeur. Seule une raison d'être donne une valeur.